Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming New, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous gourmand avec Lila Djedi, l'autrice de l'almanach militant 365 jours de cuisine gourmande et solidaire chez Tana Édition. Lila Djedi œuvre depuis plusieurs années au niveau local et social pour le bien manger pour tous. Son credo, une cuisine du quotidien facile, généreuse, créative et de saison. Dans ce podcast, Lila nous parle avec enthousiasme de son parcours d'autodidacte et de son engagement pour une cuisine saine, gourmande, responsable et solidaire. Eh bien, bonjour Lila.
Bonjour Amal.
Bienvenue sur Blooming New.
Merci beaucoup de m'accueillir.
On est contente de vous avoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre L'almanach militant, 365 jours de cuisine gourmande et solidaire. Alors, le manifeste du citoyen d'aujourd'hui. Alors Lila, que trouve-t-on dans ce livre? Enfin, on trouve des recettes, mais on en a déjà testé quatre. Quatre recettes, dont la crème de potimarron, les poires pochées au chocolat, le risotto champignons courgettes, le quatrième, c'était les pommes vapeur, le gâteau vapeur aux pommes.
Ah oui, pommes cardamome.
C'est ça. Celui-là, je l'ai un peu foiré.
Ah zut, je suis désolée.
Mais non, mais parce qu'en fait, je n'avais pas d'appareil vapeur, donc j'ai mis au four. Non, mais les pommes, tout ça, c'était super bon pour la pâte, voilà. Mais sinon, les trois autres, nickel. Enfin, voilà, vos recettes sont nickel. On a dans votre livre, parce qu'on trouve que bah, déjà, il est extrêmement généreux.
Ah oui.
J'ai l'habitude d'avoir des livres de recettes. Alors, on aime beaucoup cuisiner. On a un rapport, effectivement, à la nourriture qui est très... on va dire gourmand,
joyeux,
ouais, hein? Gourmand et joyeux. Et on a trouvé voilà votre livre extraordinaire de générosité. Il y a quand même une recette par jour.
Oui.
C'est aux familles aussi puisque vous proposez une déclinaison pour les enfants pour permettre aux enfants de participer à la vie de la maison, de la cuisine quoi.
Et une fois par semaine, donc assez régulièrement.
C'est ça.
Aussi pour les emmener faire une réflexion parce que vous avez vu, il y a effectivement une recette pour les enfants une fois par semaine, mais il y a aussi différentes thématiques qui sont abordées autour de notre système alimentaire et à hauteur d'enfant. Mais je trouve intéressant aussi qu'ils comprennent ce dans quoi on est et surtout ce vers quoi on peut tendre.
Alors, justement, quelle est l'idée, effectivement, de...
Alors, l'idée, c'était évidemment de passer par la cuisine parce que c'est ce qui m'anime. Et pour tout vous dire, moi, ça ne m'aurait pas tellement intéressé d'être une simple cuisinière parce que je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai envie de remettre du sens dans l'assiette. Et puis, j'aime comprendre ce qui se joue, ce qui se passe derrière, comment c'est arrivé là et pourquoi. Et j'aime aussi l'expliquer parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas tellement, en fait, ce que nos achats impliquent. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de mettre plus de sens, aussi plus de gourmandise, mais qu'ils ne savent pas vraiment faire. Et j'avais l'impression qu'à travers... déjà un almanach, enfin avec l'éditrice hein, pour tout vous dire quand même parce que je ne suis pas seule derrière, c'est l'éditrice, on a pensé l'almanach ensemble, c'était une de ses idées au départ parce que j'avais déjà fait un livre avec elle et voilà donc on a travaillé ensemble et il y avait vraiment cette idée d'accompagner par une recette au quotidien et d'aider à cuisiner de façon très simple, gourmande et joyeuse, mais vous avez vu ça reste relativement simple puisque j'ai fait le choix qu'il n'y ait pas du tout de technique.
Ouais, c'est très simple.
Pas du tout. Voilà, pas du tout de technique. L'idée, c'est le produit de qualité qu'on va essayer de sourcer aussi à différents coûts. Et ça, on le découvre dans le livre, hein, tout au long du livre. Il m'importe de donner une accessibilité au bien manger pour la santé, pour le plaisir, pour aider les producteurs. Et puis, il y a aussi l'idée, oui, de comprendre notre système alimentaire parce qu'on a des constats qui ne sont pas très réjouissants. quand même, hein, les agriculteurs sont les premiers à les constater. On a de la sécheresse depuis quand même plusieurs années maintenant, 4 ans. On a beaucoup d'industries alimentaires partout. On a l'impression que beaucoup de gens s'alimentent de cette manière-là parce que c'est plus simple, parce que c'est moins coûteux. Ce sont des croyances.
Ouais.
Donc moi, j'avais envie de déconstruire tout ça, de tout donner, en fait, de montrer, d'expliquer simplement, vraiment et sans jugement, parce que je me garde bien de juger, je sais que c'est complexe pour beaucoup, mais d'aider à déconstruire ses croyances et puis surtout à voir ce qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez dû le voir, il y a 800 rubriques, c'est pas rien.
Oui, c'est énorme, mais combien de temps vous avez mis pour...
Ah, c'était fou. C'était fou. C'est-à-dire que je l'ai fait très rapidement, en un peu moins de 5 mois. Mais j'ai travaillé, oui, mais j'ai travaillé 7 jours sur 7. Enfin, c'était un rythme vraiment très, très intense, très, très intense.
Wow.
Mais qui était dense, mais qui était réjouissant aussi parce qu'avec le sentiment, avec l'éditrice et son équipe, de construire un outil différent.
Mais c'est vrai parce que en fait, il y a en fait en fonction des saisons, printemps, été, automne, hiver, eh bien, vous proposez une recette par jour. Avec en associant les fruits et légumes de saison.
Absolument,
Et
ouais.
bien, à côté, vous donnez des bonnes pratiques, vous donnez des informations utiles. Enfin, c'est génial.
L'idée, c'est vraiment d'accompagner, de dire voilà, il se passe tout ça. Donc, il y a les côtés, comme je vous disais, qui sont vraiment pas drôles et qui sont quand même inquiétants. Et il va falloir vraiment qu'on se bouge.
Pour Alors, l'instant, par exemple.
Ben, par exemple, sur l'industrie agroalimentaire. Je crois qu'il faut vraiment quand même conscientiser que c'est du poison, quoi. Et pour l'instant, le gouvernement n'accompagne pas cette pensée-là, qui est quand même pour moi fondamentale, et particulièrement pour les enfants qui sont élevés quand même, enfin beaucoup d'enfants, pas tous, mais avec des produits vraiment de piètre qualité. Donc, il y a quand même cette histoire de santé publique qui est importante, qui est
L'obésité,
fondamentale.
le diabète.
Le diabète, l'obésité, absolument, et puis peut-être aussi sur d'autres plans, un manque de culture culinaire dans son ensemble, un manque de curiosité, et ça c'est hyper important aussi hein, pour bien grandir, pour évoluer et pour se sentir bien, donc ça fait partie aussi, l'alimentation bien sûr c'est pour la santé et c'est pour la planète, mais c'est aussi des moments de partage, c'est aussi des moments de compréhension d'autres cultures, d'autres mondes. Enfin, c'est plein de choses, quoi. Et c'est aussi beaucoup d'amour. Donc, c'est tout ça, en fait. C'était de rassembler tout ce dont on a besoin. Moi, je crois que l'être humain a besoin de sens, de valeur. Et puis, voilà. Enfin, voilà. Donc, j'avais envie de rassembler tout ça. Évidemment, les saisons, hein, parce que beaucoup de gens ne consomment pas en saison. Et ça... Pour moi, c'est une boussole, quoi. C'est le premier point de produits bruts non traités et cultivés avec sens et de suivre les saisons. C'est pas un hasard si on a des saisons. Le corps, il a des besoins particuliers à différents moments et se connecter à ça, c'est se connecter à soi aussi. Donc, enfin, pour moi, ça fait partie vraiment d'une évolution naturelle, quoi, de l'humain, du vivant. Et on s'est un peu déconnecté du vivant. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, moi, ce qui me pose beaucoup de soucis, c'est évidemment toute l'agriculture intensive concernant la viande. Je crois que s'il y a un geste à faire aujourd'hui pour la planète, et pour soi, mais pour la planète, c'est d'arrêter de manger de la viande de culture intensive. Ça, c'est pas possible, quoi, pour moi. C'est vraiment pas possible. On peut pas. C'est-à-dire qu'on soutient des systèmes qui sont... vraiment délétère pour la planète, mais on en va jusqu'à maltraiter notre propre humanité, quoi. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement violentes. Alors, je ne dirais pas qu'il ne faut pas manger de la viande, parce que je n'ai pas envie de dire aux gens « il ne faut pas », mais il y a des réalités. Mais peut-être, si on mange de la viande, en manger très peu, comme une fête, et puis aller sur des producteurs vraiment de qualité, locaux, qui travaillent avec sens, et c'est possible. Donc le livre aussi, tout est possible. Tout ce que j'ai mis dans le livre, c'est possible, on peut le faire, ce ne sont pas juste des mots. Il y a vraiment cette idée d'enclencher demain, selon ce qu'on est, pas à pas, sur différentes thématiques que vous avez pu voir. Mais c'est concret, c'est toute la France. Je présente aussi des gens, je mets des gens en valeur et ça m'importe aussi, des personnes qui œuvrent discrètement. Je mets beaucoup de gens qui sont plutôt dans l'ombre parce que ça m'importait, mais qui font des choses. Il y a des nouvelles solidarités aussi.
On parle par exemple.
Par exemple, moi, je vis dans un quartier, donc je suis à Paris, je vis dans un quartier populaire, dans le 19e arrondissement. On a eu beaucoup de migrants qui sont arrivés il y a 4-5 ans, il y a 5 ans maintenant, dans nos quartiers. Eh bien, des habitants du quartier ont décidé de mettre en place des petits déjeuners tous les jours, et ce depuis 4 ans, tous les jours, 7 jours sur 7. Il y a un relais d'habitants qui offre des petits déjeuners tous les matins à des migrants qui connaissent le lieu, qui viennent pour avoir au moins un repas qui est offert par les habitants du quartier. Donc ça, pour moi, c'est des nouvelles solidarités, c'est local, il se passe des choses, on n'a pas de solution, l'État ne propose pas de solution, donc il y a des gens qui œuvrent et qui décident de mettre en place des solutions concrètes en bas de chez eux, en se rassemblant. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut mobiliser, c'est du travail, il faut trouver de la nourriture aussi. Donc non, ça n'est pas simple. Mais des gens œuvrent de façon locale. J'ai créé deux groupements d'achat dans mon immeuble parce que, partant du principe que tout le monde ne peut pas s'offrir des produits bio de certains magasins bio où je vais, mais c'est vrai que sur certains produits, tout le monde ne peut pas se les offrir. Donc en passant directement par des producteurs qui viennent nous livrer dans notre immeuble une fois par mois, il y a deux réseaux, on arrive à avoir des produits sans intermédiaire et à un coût juste pour le producteur et juste pour nous. Il ne s'agit pas d'avoir un bas coût, mais un coût juste.
C'est quelque chose que vous avez organisé dans votre immeuble, c'est-à-dire avec l'ensemble de vos voisins ?
Avec quelques voisins, donc j'ai proposé ça parce que moi j'étais il y a longtemps dans une AMAP et que je crois beaucoup en ce système, parce que j'ai rencontré des personnes qui œuvraient dans ce sens-là. Donc grâce à eux, je leur ai demandé si c'était possible d'envisager de nous livrer sur certains produits, donc de producteurs. Donc ça se fait pour des produits qui viennent de Sicile, donc des produits exotiques de Sicile, c'est-à-dire que les avocats, on en mange deux fois par an. Et ils viennent de Sicile, une coopérative sicilienne.
D'accord.
Et on n'achète pas d'autres avocats. D'accord. Donc, il y a vraiment des choix. On a des mangues, on a des bananes, on a plein de produits de Sicile qui viennent. Et pour nous, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important parce que c'est moins loin, parce que je ne soutiens pas des systèmes qui ne me donnent pas envie. Et j'accompagne une coopérative qui se mobilise vraiment pour les gens qui travaillent et pour nous. Donc ça me paraît cohérent. Et puis après, avec une ferme en Picardie, dont j'aimais beaucoup le travail parce que j'avais leurs produits dans une AMAP, je leur ai demandé si c'était possible de nous livrer dans l'immeuble, si moi je gérais de mon côté les personnes, les règlements, etc. Et puis ça tombait très très bien parce qu'ils avaient l'idée de se développer aussi sur Paris et de livrer, et aux alentours de Paris, et de livrer directement les immeubles, donc de ramener la campagne à la ville en fait, hein. Et avec pas d'intermédiaire, en tout cas juste un, et ça permet d'avoir des coûts plus raisonnables et de soutenir concrètement, directement, des personnes. Et ça, moi, j'aime bien cette idée, en fait.
Vraiment. Alors, l'AMAP, vous pourriez juste décliner la signification ?
Oui, alors l'AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Okay. Donc, c'est une association qui permet donc de rassembler des producteurs, et sous forme d'un contrat solidaire. On signe un contrat en début d'année, donc ça peut être un contrat de 6 mois, ça peut être un contrat d'un an, ça dépend des produits. Okay. On est sur des fruits et des légumes, quelques fruits parfois, mais des légumes, pour accompagner donc un producteur. On signe un contrat, pendant un an on est avec lui, on donne plusieurs chèques sur l'année. Et grâce à ça, on a des paniers producteurs. Donc, sur les légumes, c'est toutes les semaines. De produits de saison. Et on travaille en direct. Donc, on sait où va notre argent. Le producteur est rassuré parce qu'il a son argent sur 6 mois sur l'année. Donc, il sait exactement comment il va payer ses charges. Il sait exactement comment il va se verser un salaire. Donc, on enlève quand même beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et je dois le dire, c'est vrai que grâce aux AMAP, les producteurs vivent de leur travail. C'est important de le dire, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui, d'agriculteurs, qui ne vivent pas de leur travail, qui ont en plus des subventions et qui se retrouvent à travailler vraiment comme des fous, à s'épuiser, et qui n'ont pas de salaire décent. Donc, il y a un problème dans le fonctionnement qu'on a d'aujourd'hui. Et les AMAP fonctionnent très bien parce que c'est pas… Je dirais que c'est hors des lois du marché, c'est-à-dire que le producteur sème en fonction des différents contrats qu'il a. Il va semer et puis il va faire la répartition de sa récolte. Voilà. Donc, s'il y a une énorme récolte, eh ben, on a beaucoup de chance, on a beaucoup plus de produits. S'il y a moins, eh ben, c'est pareil, on est sous un contrat solidaire, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc, on est sous un contrat solidaire, donc on l'accompagne aussi. Donc, ça a du sens. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les jardins de Cocagne aussi qui font ça. Il y a plein d'autres formes d'achat à la ferme, en direct ou par le biais d'associations ou des groupements d'achat solidaires qui se créent. Donc, il y a plein de formes, de différentes formes de sources d'achat qui font que non seulement on aide, on accompagne, mais en plus, le budget est plus accessible. Et ça, c'est important pour moi aussi, parce que je ne peux pas dire aux gens, mais écoutez, franchement, manger bio, c'est facile, il suffit juste de le vouloir, de s'organiser. Oui, mais non, ça n'est pas que ça. Et je le regrette, hein, j'aimerais que ce soit autrement. Mais il y a aussi des gens qui ont des tout petits budgets et il faut les accompagner. Et j'ai l'impression qu'avec ce livre, j'accompagne vraiment les gens selon les différentes problématiques, selon les différentes réflexions qu'on peut avoir.
Tout à fait, je confirme, Lila. Lila, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion pour l'aliment, pour la cuisine, pour ce que vous faites aujourd'hui? D'où vous venez, Lila?
Alors, d'où je viens? Je vais repartir sur d'où je viens. Alors, oui, c'est toujours compliqué cette question. Oh, je vais revenir, je crois, là où j'ai eu vraiment mon coup de cœur culinaire. J'ai habité à Londres quand j'avais 22 ans. Je suis partie à Londres pour parfaire mon anglais et j'ai habité là-bas. Donc, je cherchais un petit job alimentaire. Hein, donc, c'est bien souvent la restauration. Serveuse plutôt, sachant que j'étais extrêmement maladroite et que j'aimais pas du tout servir les gens, mais en même temps je voulais rester à Londres. Et j'ai eu la chance de pousser la porte d'un pub, d'un petit pub très sympa dans la city, et le cuisinier venait de partir. Donc française, donc le boss me regarde et me dit, ben non, pas de serveuse, mais est-ce que vous voulez venir cuisiner demain? Donc voilà. Et donc, j'ai dit oui. Alors, j'avais très, très peur, hein, évidemment. Mais j'ai dit oui parce que j'aimais bien cuisiner, mais je ne savais pas encore à quel point j'aimais cuisiner. Et donc, le lendemain, je me suis retrouvée dans ce pub à préparer durant 1 an et 3 mois une entrée, un plat, un dessert tous les jours. Avec une immense liberté. On avait un maraîcher juste à côté. Donc, j'allais chercher mes fruits et légumes le matin chez le maraîcher. Je faisais ce que je voulais. J'avais aucune formation. Et là, j'ai eu une révélation, mais un immense plaisir à découvrir la cuisine végétarienne. Donc, c'était il y a longtemps, hein. La cuisine végétarienne, j'ai découvert la cuisine indienne qui était extrêmement parfumée, très inspirante. La cuisine végétarienne gourmande, parce que je ne sais pas si vous connaissez la cuisine végétarienne à Londres. Elle est juste extraordinaire. Elle est faite de différentes cultures. Elle est parfumée. Elle est ouverte. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une ode à la différence, quoi. Ici, même après 25 ans, je trouve qu'elle est encore un peu timide, la cuisine végétarienne, pour moi, par rapport à ce que j'ai découvert il y a 25 ans à Londres. Donc là, je me suis pris une grande claque. Mais une grande claque. Une grande claque, comme je vous disais, une ode à la différence, une ode à la liberté. Voilà. Donc, vraiment, ça a été complètement fou. Et puis, je suis revenue en France et je ne me suis pas autorisée à me lancer dans la cuisine, hein, parce que d'abord parce que je voulais pas passer de CAP, parce que ça commence par ça, et moi je voulais pas cuisiner de la viande et du poisson et le matin, et puis les produits qu'on utilise en CAP sont pas forcément des produits de qualité, donc j'avais pas tellement envie d'être là-dedans, je me retrouvais pas dans cette idée-là, et puis parce que j'étais dans l'audiovisuel et que j'avais l'impression que la cuisine c'était pas pour moi. Et ensuite je suis tombée enceinte quelques années après, j'étais intermittente du spectacle, j'ai dû m'arrêter à 5 mois de grossesse sur un projet, donc je pouvais pas recommencer un autre parce que quand on est intermittent, voilà. Et là je me suis dit, bah, en fait moi j'ai juste envie de cuisiner, quoi. En réfléchissant, j'avais le temps de me poser, j'étais plus dans le rythme de la vie, du quotidien, et je me suis dit, mais en fait, non seulement j'ai envie de cuisiner, mais en plus j'ai toujours rêvé d'être indépendante, voilà, être indépendante, mener ma barre, parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à dire, que je peux faire des choses, enfin voilà, et donc j'ai eu mon petit garçon, j'ai pris soin de lui pendant un petit moment, tout en construisant mon projet. Donc, pendant 2 ans, j'ai pris soin de mon garçon. C'était un choix. Et en même temps, en parallèle, je construisais ce projet d'ouverture d'un restaurant Et voilà, et ensuite j'ai ouvert la cantine Vagabonde qui se trouvait à Stalingrad, dans un quartier populaire. Ça me tenait à cœur aussi d'abord parce que j'y habite, puis parce que j'étais très remontée comme un coucou, parce que voilà, sous prétexte qu'on est dans un quartier populaire, on n'a pas tellement de choses de qualité, quoi. Et ça, moi, ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème, d'autant plus que j'ai vécu à Londres et que je trouvais que c'était pas du tout comme ça, quoi, là-bas. Où il y a quand même un certain mélange. À Brixton, il y a de tout, quoi. Enfin, dans des quartiers comme Camberwell, on est vraiment sur des quartiers populaires. Hein. Et en même temps, il y a des bons restos, il y a des endroits où on peut sortir, il y a des bars sympas, voilà. Et pas à Paris, pas à Paris. Donc ça m'agaçait aussi. Donc il y avait cette idée un peu de raconter ou d'essayer de raconter quelque chose de nouveau. Donc en m'installant dans une rue qui est la rue d'Aubervilliers, ce n'est pas rien pour ceux qui connaissent. Et resto tout doux. Tout beau, avec des produits de saison, végétariens, de qualité, vraiment où les gens venaient se poser. C'était un sacré pari, hein. C'était un sacré pari qui a été très bien accueilli. C'était complexe d'être dans le quartier, mais qui a été très bien accueilli. Parce que même les gens qui ne pouvaient pas profiter du restaurant, donc des gens qui étaient très modestes, s'arrêtaient et me disaient, ça fait vraiment du bien de voir un endroit beau dans le quartier. Et puis j'avais mis des petites phrases très douces sur le vivant, voilà, sur les produits, sur une grande vitrine, sur la vitrine qui était immense, et des gens s'arrêtaient et lisaient en me disant, ça nous fait du bien, quoi, ça nous fait du bien, c'est pas notre quotidien. Et moi j'ai adoré, donc ça m'a beaucoup plu, et voilà, donc je suis restée 7 ans. Ça a été difficile parce qu'un resto c'est complexe, que moi je suis pas une restauratrice, que c'est un rythme très dense, très physique, hein. Et qui plus est, quand on est dans un quartier où on a envie d'apporter quelque chose de nouveau, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, et un quartier fragile, donc il y a beaucoup de choses à gérer, au-delà de son entreprise, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à gérer. Et du coup, voilà, bah ça, je l'ai fait pendant 7 ans. Et puis après, c'est vrai que j'avais besoin d'autre chose, d'être dans la transmission, bien sûr, mais autrement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup transmis. Beaucoup de clients qui arrivaient au départ étaient très frileux, voilà, avaient un peu peur. Et j'ai jamais tenu de grands discours, en fait. J'ai d'abord toujours, enfin, ça m'a toujours tenu à cœur de nourrir. Et une fois les gens rassasiés, heureux, on pouvait discuter des différentes problématiques. Et là, ça glissait tout seul. Je préfère aller dans ce sens-là plutôt que convaincre. Avec des mots et de faire de grands discours. Donc, il y avait vraiment cette idée de. On en parle après. D'abord, vous vous restaurez. Et puis ensuite, eh ben, c'était des grandes discussions. Oui, c'est ça, autour de ce système alimentaire qui épuise nos ressources et notre humanité, autour de nos possibles, autour de la facilité de cuisiner au quotidien des choses simples et brutes. Et la plupart de mes clients. Ont vraiment changé leur alimentation et ont conscientisé l'impact.
C'est vrai que dans vos recettes, on utilise tout, même les déchets, les pelures. Il y a toujours quelque chose, on peut en faire toujours quelque chose. Donc, c'est très sympa. C'est déroutant au début parce que moi, la première fois que j'ai essayé, donc, c'était avec les poires pochées au chocolat et
Curcuma?
curcuma. Et donc, bah, évidemment, je les ai épluchées. J'ai mis à la poubelle les épluchures. Pas la deuxième fois parce que j'ai adoré la recette, donc je l'ai refait. Et là, effectivement, j'ai fait la petite infusion.
Délicieuse.
Conseillé, et c'est très sympa. Alors après, pour le gâteau
La
avec
cardamome et les pommes.
bon, là, j'ai bien pris la pelure d'orange, je ne me suis pas fait avoir. Non, non, mais c'est vraiment, c'est très chouette. Et c'est très chouette à partager avec les enfants parce que du coup, ça les responsabilise aussi, ça les met dans un dynamisme. Et on n'a même pas besoin de les responsabiliser parce qu'eux sont déjà là-dedans.
Ouais.
C'est plutôt nous, adultes, qui avons à se. Comment dire, à se policer, à s'éduquer, à s'auto-éduquer ou à s'éduquer avec grâce à votre livre, par exemple, pour pouvoir avoir des réflexes
Je suis d'accord.
à donner, quoi.
Ben, je suis d'accord. Et c'est ce qui me plaisait aussi, c'est que je me suis dit en écrivant les pages pour les enfants, c'était effectivement pour les enfants, mais surtout pas que, parce que je savais que les parents allaient apprendre beaucoup aussi et apprendre ensemble avec leurs enfants. Et ça, moi, je trouve ça magique aussi de pouvoir se dire, d'être avec son enfant et de se dire, bon, écoute, ah oui, ah ben ça, je sais pas. Et on apprend ensemble. Et ça, j'adore. Et on apprend ensemble sur la recette, mais on apprend ensemble sur différentes thématiques qui nous concernent tous aussi, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de poser pour les enfants, à hauteur d'enfant, avec des mots d'enfant, des questionnements ou en tout cas des réflexions, voilà, quoi, sur l'alimentation, de dire ce que c'est que les OGM de façon très simple, voilà, d'expliquer vraiment tout ce qui nous concerne et puis de leur montrer aussi qu'il y a plein de gens qui œuvrent et qui font des choses, moi, que je trouve extraordinaires. Hein. Et moi, c'est ce qui me réjouit, en fait, c'est de voir ce qui se fait. Et c'est vrai que là-dedans, avec ces 800 rubriques, on voit quand même pas mal de choses.
Ah oui.
Du coup, ça permet aussi, je trouve, aux gens qui sont un petit peu... ça m'arrive hein, parfois d'être un peu démoralisée, parce que je vois que les gouvernements font absolument rien et que vraiment, ce n'est pas leur priorité. Eh bien, je me raccroche à ça. Je me replonge, j'appelle, je me raccroche aux gens qui se lèvent tous les matins et qui font concrètement des petites choses en bas de chez eux. Voilà. Et ça, c'est précieux, je trouve. Parce que si ça ne bouge pas là-haut, sachez que ça bouge quand même en bas, quoi.
Et qu'on a le pouvoir de faire.
Et qu'on peut le faire et que boycotter, c'est pas forcément s'égosiller, s'énerver, être dans la colère, s'agacer. Moi, j'ai fait beaucoup de manifs quand j'étais toute jeune, moins maintenant parce que j'ai moins envie, l'énergie en tout cas, de me retrouver un peu bousculée parfois. Mais finalement, l'acte d'achat, il est hyper puissant. Ça ne se discute pas, c'est un choix. C'est calme, c'est limpide, c'est clair. Il n'y a aucune violence, c'est juste refuser, quoi. Et quand on a les clés pour tout comprendre et quand on a les clés pour faire autrement avec un autre budget, un budget moindre, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là.
Eh bien, merci Lila.
Oh, merci à vous.
Pour votre enthousiasme si contagieux, ce témoignage rafraîchissant. Merci pour votre livre qui est hyper fédérateur, qui donne du sens... là où effectivement on peut des fois perdre, parce que bon, compte tenu plus du, enfin, l'atmosphère, l'amorosité ambiante, c'est précieux, ça fait du bien. Merci beaucoup Lila. Je rappelle le titre de votre livre. Alors, 365 jours de cuisine gourmande et solidaire, l'almanach militant, donc de Lila Djedi, donc chez Tana Édition.
Absolument.
Un dernier mot Lila pour ceux qui nous écoutent.
Un dernier mot, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que se nourrir au quotidien doit être un acte réjouissant, qu'avec peu, on peut vraiment donner beaucoup, avec peu, il n'y a pas besoin d'avoir des ingrédients extravagants, coûteux, c'est vraiment le bon soin qu'on va porter à ce qu'on va faire et à l'acte de nourrir, et qu'il y a beaucoup plus de choses que quelques ingrédients dans une assiette et dans l'acte de nourrir, et que c'est peu coûteux, et qu'il faut se remplir, oui, de cet acte-là.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Lila Djedi, l'almanach militant 365 jours de cuisine gourmande et solidaire chez Tana Édition. Si ce podcast vous a plu, faites-le nous savoir. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !